What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded,
sir.
It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Riconoscete.
Philomena. Cinéphile, activiste, pacifiste, vivant d'Ardèche et d'autres galaxies, bienvenue. Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, nous allons partir dans des univers légèrement borderline, carrément barrés ou alternatifs, avec au milieu un rock, un pic. Je ne parle pas de l'œuvre de Rostand, ni de Hugo ou Zola, non, je parle de l'autre. Alexandre Dumas père, que nous avons déjà évoqué la semaine dernière, mais le sujet n'est pas épuisé. On parlera donc des films Normal d'Olivier Babinet, Bonne conduite de Jonathan Barré. Vous l'aurez reconnu, on parlera des Trois mousquetaires de Martin Bourboulon, mais aussi de Chacun cherche son chat, qui est à nouveau projeté dans le cadre de l'escale patrimoine au navire d'Aubenas. Et puis on parlera également de Point de bascule, le documentaire d'Antoine Zarodi. On dira aussi un mot sur la soirée du 27 avril au navire avec la projection du documentaire Permaculture, la voie de l'autonomie, proposé par le collectif Citoyens pour le Climat 07 en association avec la FRAPNA 07. Et tout cela se fera dans une compagnie gentille, cinéphile. Cathy, Mathieu et Olivier, bonjour.
Bonjour et bienvenue à la passion non violente.
Bonjour.
Salut.
Et Quentin, aux manettes.
Bonjour.
Alors, on va commencer tout de suite en interrogeant notre côté un peu borderline.
Lucie n'est pas comme les gens normaux. Elle doit penser à tout tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Comment on enlève les taches dans un tapis?
Papa, t'as pas appelé DF?
Non, j'ai appelé, je t'assure. Et ils répondent jamais, ces gros rats.
T'as dormi là ou quoi?
Lucie! J'ai appelé le service d'aide à l'enfance. Il y a une assistante sociale qui va venir vous faire une petite visite.
Une petite visite?
Oui, juste pour voir comment ça se passe.
Y a aucune raison qu'on te place en foyer. Tu m'entends? Je ne suis pas en fauteuil roulant, donc je suis très bien m'occuper de tout.
Papa, t'as les mains qui tremblent et t'arrives même plus à faire tes lacets. Faut qu'on ait l'air plus normaux.
Arrête!
On se débrouille, hein?
Justement, on va lui montrer comment on se débrouille. C'est quelqu'un.
Je vais réparer la moto de ta maman. On ira dans le sud.
La vie de Lucie et son père, c'est comme une promenade sur un lac gelé. La glace est tellement solide qu'on peut rouler dessus en camion. Alors Lucie oublie qu'il y a un grand lac sombre sous leurs pieds.
Je n'y arrive plus. Je suis fatiguée.
Et moi, tu crois que je suis pas fatiguée? Et à tout moment, la glace, elle peut craquer.
Vous l'aurez reconnu complètement à la messe, Benoît Poulvorde et qu'on connaît moins, Justine Lacroix, pour le film Normal d'Olivier Babinet. Cathy, tu es allée voir Normal.
Je suis allée voir Normal et j'ai adoré ce film. J'ai commencé comme ça.
Waouh, super. Vous êtes à l'écoute de Fréquence 7, Cinémascope. Alors, ouais, Cathy, t'as adoré ce film.
Non, en fait, c'est un film que nous avons soutenu, puisque je fais partie d'un comité de sélection de films pour les 15-25 ans. Mmh. Puisque c'est le public cible que nous avons tous envie de voir nombreux en salle, et c'est le cas quand même. Mais bon, après, c'est bien de les amener sur d'autres filmographies que ceux qu'ils ont un petit peu l'habitude de voir et sur lesquels ils viennent assez spontanément. Mmh. Et c'est vrai que ça a été un coup de cœur quand même pour ce comité de sélection, ce film, parce qu'il a un côté très original. Alors, il va aborder un sujet qui est lourd. Alors, je vais vous dire le synopsis. Lucie, c'est une adolescente qui est en classe de 3e, qui vit seule avec son père veuf, qui est addict au hashish, ou à kick, comme dirait Coluche, et qui souffre de sclérose en plaques. Elle est amoureuse d'un garçon de sa classe qui, victime d'homophobie, lui propose un étrange marché. Et donc, en parallèle, l'état de son père se dégrade. Une assistante sociale doit venir à la maison pour vérifier tout ce qui se passe. Bon, bref, une vie très compliquée. Et effectivement, le sujet est plutôt lourd et plutôt sensible sur la maladie, le fait d'être attirée par un garçon qui n'est pas forcément amoureux d'elle parce que il pourrait avoir des tendances ou une attirance sexuelle autre. Mmh. Bon, bref, c'est une jeune fille qui a une vie compliquée. Mais malgré tout, le réalisateur Olivier Babinet, qui avait réalisé notamment Swagger, qui avait été quand même révélé justement sur ce public-là, puisqu'il était là dans... c'était un film de commande qui se passait dans un lycée où il y avait plein de jeunes qui s'exprimaient sur eux, sur leur vie, leurs attentes. C'était hyper bien.
Et Poisson Sexe aussi.
Ouais, le dernier, le précédent, c'était Poisson Sexe. Mais bon, voilà, c'est un réalisateur qui fait des films plutôt originaux, qui ne nous amène pas du tout là où on aurait peut-être envie d'aller. Mais malgré tout, avec ce film, et notamment l'interprétation de Benoît Poulvorde dans le rôle du père, ça reste un film qui va être léger. Il y a énormément d'humour aussi, et qui approche ces vies compliquées, complexes, de manière plus légère. Et qui est vraiment original, enfin dans sa mise en scène à la fois, et puis la façon qu'il a de raconter l'histoire. Donc, je ne veux pas forcément en dire beaucoup plus. Franchement, s'il passe dans une salle à proximité de chez vous, allez le voir, parce que vous serez surpris, agréablement surpris, par ce film.
Eh bien justement, il passe, alors en ce moment, il passe à Privas cette semaine et à partir de mercredi prochain, il passera au Regain du Teil. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu programmé pour l'instant au navire, mais voilà.
Mais peut-être.
À voir. On continue sur les chemins de traverse, tout à fait traverse.
Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture...
Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas.
Je supporte pas.
Vous avez toujours été formatrice ?
À la base, je suis psychologue.
Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure, ça.
Ouais.
Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière. Essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon, c'est pas tous les jours facile.
Police judiciaire ?
Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat.
Oh, ça pue! Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000.
Alors vous, votre truc, c'est de buter les chauffards.
Bah oui, je fais de la prévention routière.
Notre enquête prend une tournure, là.
Je savais bien quand vous êtes émoustillé comme ça, là.
Là, on avance.
Allez! Allez, putain, c'est long, cette merde.
Bonne conduite de Jonathan Barré avec Laure Calamy, que vous aurez reconnu, Jackie Cario, et puis le duo David Marseille et Grégoire Ludig du Palmacho. Alors, bonne conduite, est-ce que le film tient la route sur la longueur, Cathy ?
Oui, complètement. Donc c'est un film que Jonathan Barré a réalisé, c'est son troisième long métrage, je crois, après La folle histoire de Max et Léon et j'oublie Les Vedettes, voilà. C'est la première fois qu'il écrit le scénario sans la complicité du Palmacho, donc David Marseille et Grégoire Ludig. Par contre, qui sont au générique, parce que c'est voilà, des gens qui aiment travailler ensemble. Et on est plus dans un esprit, polar, thriller, mais évidemment avec beaucoup d'humour, plutôt de l'humour noir. Donc l'histoire, c'est une jeune femme qui est interprétée par Laure Calamy, qui s'appelle Pauline, qui est une psychopathe en fait, mais qui se cache derrière une
oui une psychologue,
mais une psychologue psychopathe.
C'est ça. Ouais, mais c'est
une mauvaise couverture,
mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière les psychologues. Je ne veux pas me faire l'avocate du diable de la profession, mais enfin bon.
Ouais, c'est ça.
Je soulève simplement cette.
Elle est psychologue et elle intervient dans des stages récupérer les points, pour la prévention routière. Il y a des gens qui sont là et en fait elle repère un peu ceux qui sont plutôt misogynes, un peu tout, qui en ont rien à foutre de la sécurité routière et qui font n'importe quoi sur les routes. Comme elle a eu un drame dans sa vie, c'est un peu sa façon à elle de se venger des mecs qu'elle peut repérer comme ça. Et donc, elle va être embringuée dans une histoire beaucoup plus encore qui la dépasse. Et les flics, sur le coup, sont interprétés par David Marsay et Grégoire Ludig. Bon, ils sont pas super fut-fut, mais bon, ils sont quand même là. Il y en a un qui est un peu mieux que l'autre, on va dire. Donc en fait, ça donne une ambiance plutôt réussie au niveau du polar et du côté thriller, avec les codes habituels, des rebondissements, Laure Calamy qu'on voit monter en puissance aussi dans son espèce de folie. Et puis donc ça renvoie un peu à des cinématographies comme les frères Coen, c'est un peu dans cet esprit-là, version Fargo. On peut retrouver
décalé, absurde peut-être.
Ouais, on peut retrouver complètement ça et tendre un peu vers Quentin Dupieux aussi par moment. Et donc ça donne un film. Moi, j'ai passé un bon moment, je me suis bien marrée. Tout le monde ne s'est pas marré dans la salle, donc je ne savais pas trop ce que les gens, certains pouvaient en penser. Peut-être qu'ils étaient en train d'halluciner sur ce qu'ils étaient en train de voir, ou ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de voir. Mais en tout cas, il y a vraiment une touche. Enfin, voilà, ils ont leurs pattes, vraiment. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Mais très franchement, le film tient la route. Le scénario vraiment tient la route. Il est bien écrit. Et puis il y a des guests comme Thomas VDB qui tombe amoureux de Pauline et qui ne sait pas comment trop lui dire des choses. Il y a Checky Cario qui joue un méchant. Il y a d'autres méchants aussi qui sont extraordinaires, qui ont un passage un peu dans l'histoire et qui enfin bon bref. Non, franchement, c'est à voir. Faut y aller si on a envie de vraiment penser à autre chose, pas se prendre la tête, tout en regardant un film de qualité. Faut aller voir Bonne Conduite.
C'est rare, super. Bonne Conduite. Ouais. J'ai entendu adhérer sur la route avec Quentin Dupieux. Ça me faisait penser à Pneus. Mais peut-être que...
Le rover, bien sûr.
Donc, un film pour se divertir de bonne qualité, Bonne Conduite de Jonathan Barré, qui est à voir à Aubenas et à Rosières cette semaine. Autre film de divertissement dont on a déjà parlé, alors j'ai pas la BO, mais peut-être je peux vous proposer qu'on se la chante ensemble ou qu'on s'imagine... Si je vous dis D'Artagnan, vous pensez à quelle musique ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, pas grand-chose.
Mathieu ?
Non, j'imagine.
Monteverdi, j'ai bon ? Non.
Ah.
Non, question d'époque, je sais pas.
Bon,
bref.
C'est pas grave.
J'ai pas, mince.
On va juste se l'imaginer.
Pourtant, je voulais bien chanter, là.
J'étais prête aussi, mais je sais pas, mais attends, parce que tu attends vraiment un truc particulier, là.
Je n'attends rien, j'attends de vous une petite musique, une petite bande-annonce improvisée.
Non.
Non, bon, tant pis. Si ça vous vient après...
On n'hésitera pas.
Alors, donc, Olivier, on en a parlé la semaine dernière, mais toi, tu l'as vu entre-temps et tu voulais revenir un petit peu sur
oui,
ce
j'avais
Trois Mousquetaires d'Artagnan.
Oui, j'avais un petit peu envie de revenir là-dessus, parce qu'effectivement, je viens de finir la lecture des quelques 1000 pages des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, donc le père. Et donc, effectivement, comme on s'est un petit peu occupé, Cathy et moi, des rapports entre un livre et un film, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapport, moi aussi, évidemment. en faisant cette émission avec Cathy, on avait remarqué, enfin, je pense que tu seras d'accord, qu'il y a pratiquement autant d'adaptations que de... Enfin, de genre d'adaptation que d'adaptation, en quelque sorte. Alors, on est à chaque fois dans un, dans un cas particulier. Là, rapidement, ça appartiendrait, à mon avis, un peu à une certaine espèce qui est ce que j'appellerais l'interprétation. C'est-à-dire, vous avez une partition, c'est le livre, et puis vous avez des interprètes. Ce sont les concertistes, les solistes, etc., et qui ont la partoche et puis qui jouent, et puis voilà. Et donc, en général, donc, ça marche. Et là, ça marche plutôt pas mal, effectivement. Mais alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont c'est interprété. C'est-à-dire comment c'est vu, comment c'est transformé de petits points noirs sur une feuille de papier à, en l'occurrence, à des images sur grand écran. Et ça m'a paru assez symptomatique, en l'occurrence, justement. Et c'est intéressant parce que Dumas, dans le bouquin, il dit que il ne faut pas qu'une époque en juge une autre, et que lui, il va se garder de porter des jugements sur les mousquetaires du XVIIe, puisque lui, c'était un homme du XIXe. Bah là, on a un petit peu une façon qu'a un homme du XXIe de voir des mousquetaires du XVIIe. Alors, c'est assez bizarre, d'une certaine manière. Et puis, en même temps, on voit comment un homme du XXIe, donc le réalisateur, voit un homme du XIXe, Alexandre Dumas. Puis moi, quand je vais au cinéma, bah, je regarde des hommes du XXIe. Oui, vous me suivez ?
Poupée russe.
Voilà, exactement. Et alors, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était assez symptomatique. Alors, si, comme le disait Julien vendredi dernier, ça coche toutes les cases, je pense que Cathy ne me dira pas le contraire du point de vue du casting en particulier, les quatre mousquetaires, parce qu'à la fin, D'Artagnan devient lui aussi mousquetaire, nommé par le cardinal, paradoxalement. Enfin bon, ne rentrons pas dans les détails, ceci ne nous regarde pas, de toute façon. Et donc, il y a effectivement des tas de choses qui marchent extrêmement bien. Mais alors, ce qui est passionnant, ce sont les différences, c'est-à-dire les libertés que le réalisateur se permet. Alors, je ne vais pas non plus trop m'étendre, mais j'en citerai peut-être deux.
Ouais. Sur les combats, tu
disais
notamment.
Ah, alors trois. Alors effectivement.
Je pensais circonscrire, mais non.
Non, alors... Là,
j'en rajoute une.
Alors,
allez, vas-y.
Mais je vais essayer de les raccourcir. Alors oui, effectivement, au XVIIe siècle, le combat à l'épée, en France, c'est un petit peu comme le combat au katana au Japon, exactement à la même époque. Hein. C'est-à-dire c'est un vrai art. Descartes, dont on a parlé... dont on parlera dans les jardins suspendus plutôt, était lui-même chevalier et a écrit un traité d'escrime. Donc c'est quelque chose de très raffiné, de très sophistiqué, de très technique. Et il en reste un petit peu de ça dans l'œuvre de Dumas, un tout petit peu. Mmh. Et là, plus du tout.
D'accord. Là, cette sophistication, mort. cette
ouais.
finesse.
C'est-à-dire qu'au lieu de voir des gens qui manient des épées, on voit un caméraman qui manipule une caméra. Ça change tout. Oui, parce qu'au lieu de voir des combats, on a l'impression qu'on est en train de tomber, qu'on a trébuché dans les bois et qu'on est en train de tomber. C'est très inconfortable. Moi, j'ai eu peur plusieurs fois quand même.
Très inconfortable, mais je pense que c'était sans doute le vœu du réalisateur de rendre immersives les scènes d'action, peut-être.
Oui, alors moi, j'aurais préféré avoir quelques beaux combats avec... des hommes qui se fendent, n'est-ce pas, fendre de quelque chose. C'est pas... Enfin bon, c'est pas grave. Du point de vue de l'intrigue, il y a un petit rebondissement chez Dumas qui est lié au fait que sur un bijou, on a prélevé une partie. Et c'est le manque de cette petite partie qui fait rebondir l'intrigue. Je veux pas trop en dévoiler, etc. Ça, c'est donc assez fin du point de vue narratif, c'est assez fin. Bon, ça dégage dans le film et c'est remplacé par des gens qui se perdent dans un bal masqué. Alors effectivement, en termes de couleurs, d'empilement de décors et de costumes, etc., évidemment, on gagne énormément. En termes de finesse dans l'intrigue, on perd beaucoup. Voilà, ça c'est un petit bon. Alors, puis dernière chose, Dumas, il a quand même... j'étais surpris, moi-même surpris, parce que j'avais pas lu ça depuis mon enfance ou... J'avais probablement lu une version courte, j'avais pas lu 1000 pages à 10 ans, c'est absolument certain. Et donc j'ai été surpris de pas mal de choses, et en particulier de la manière dont Alexandre Dumas, donc le bouquin 1844, hein, comment il comment ils creusent ces personnages. Ils sont vraiment travaillés. Athos, c'est le grand torturé qui n'arrête pas de boire des canons et de jouer parce qu'il faut qu'il oublie quelque chose. Donc c'est un personnage vraiment torturé. D'ailleurs, Cassel a absolument tout ce qu'il faut pour jouer ça. Et à mon avis, ce n'est pas assez exploité. Porthos, bon, c'est le bon vivant, il ne réfléchit pas trop. Bah, là aussi, Pio Marmaille, c'est pas mal joué et ça aurait pu être plus exploité. Et Aramis, c'est le spirituel, mais alors au sens fort du terme, c'est le type qui, dans le roman, n'arrête pas de dire qu'il n'aurait pas dû être mousquetaire, il aurait dû se faire prêtre ou abbé. Son truc, c'est abbé. Et bon, il oublie assez régulièrement cette vocation déjà un petit peu oubliée, mais il y revient régulièrement et souvent ses amis le surprennent en train de prier, en train de lire ou dans un débat théologique assez serré avec des gens de rencontre, enfin, etc. Et là, on a donc Duris qui aurait encore une fois très bien pu jouer cette ambiguïté entre le spirituel et le bagarreur, quoi, finalement, d'une certaine manière. Et alors, le réalisateur nous transforme ça en un personnage pervers, gothique, mais vraiment très très particulier. Il va vraiment très très loin. Là encore, je ne vais pas divulgâcher quoi que ce soit. Mais enfin bon, on est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire en termes de blockbuster, de divertissement, de secousse, on gagne. Alors, en termes de
là,
finesse...
Il trahit l'esprit pour
oui,
toi.
Oui, mais en fait, le problème pour moi, ce n'est pas de la trahison. Je m'en fiche complètement. Il y a un bouquin qui existe depuis 150 ans. Ça me dérange, on en fait ce qu'on veut. D'ailleurs, tout lecteur trahit sa lecture, trahit le roman en le lisant. C'est vraiment pas la question. C'est ce que, comme je disais au début, c'est ce que ça révèle d'aujourd'hui. Et pour avoir chroniqué sur Le Chapoté ou d'autres...
On s'en souvient.
Voilà, j'étais sûr qu'on me ferait encore aujourd'hui le reproche. Hein. Mais j'assume, c'est difficile. J'en parlerai à ma psy, qui n'est pas psychopathe, enfin, je ne crois pas. Et alors, enfin, en tout cas, le mot qui me vient, c'est surenchère. C'est-à-dire qu'on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, et au bout d'un moment, ça déborde, quoi, hein. Voilà. Mmh. Et c'est un peu le sentiment que j'avais quand le film s'est arrêté. Voilà.
Ouf. Les trois mousquetaires d'Artagnan, de Martin Bourboulon, qui est toujours à voir un peu partout sur vos écrans en Ardèche. Faites-vous votre propre
avis. C'est ça.
Votre propre
avis. Moi, je dis ça, je ne dis rien.
On continue dans une autre... on remonte le temps un petit peu, un peu moins loin quand même.
C'est Grégory.
C'est ton chat?
Ben oui.
Ah ben voilà, il était où le chat? Eh ben il était derrière la cuisinière depuis 12 jours là.
T'es fou?
Ben tiens, elle entend.
C'est un des miens.
Ben elle dit qu'elle entend son chat alors.
Ah non, c'est à moi qui est derrière.
Ben il connaît bien son chat, non?
Il y a 15 jours qu'il est parti, il est pas derrière.
Ah oui, ben si t'avais mangé, ça fait 3 jours que t'as pas mangé, t'aurais peut-être entendu le chat des autres. Ben oui, ben il y en a plein des chats là. Et il est coincé derrière la cuisinière. Ben elle essaye de le prendre doucement et il est complètement coincé derrière.
Ben oui, parce qu'il y a ma tire à la cuisinière, t'es assez fort quand même.
Ah oui, ben.
Tu veux pas que je me lève avec ma gorge?
Non, mais t'as pas
parlé déjà. Ben oui, t'entends pas.
Mais recouche-toi d'abord.
Je suis pas mal.
Tiens, tiens. Ben il est tout maigre, tout mouillé, tout pelé.
C'est pas grave qu'il est maigre. Mouillé, t'as qu'à prendre la douche.
René Le Calme, qu'on vient d'entendre dans Chacun cherche son chat de Cédric Clapiche. Un film de 1996 qui ressort aujourd'hui, en tout cas qui est diffusé à nouveau au Navire d'Aubenas. Cathy et Mathieu, vous êtes allés le voir, alors, ou le revoir.
Je vais laisser Mathieu peut-être en parler, moi j'en parlerai après.
Ça marche. Ben oui, avec plaisir, parce que pour moi en tout cas c'était une découverte. Mm-hmm. Je connais en fait assez peu le cinéma de Cédric Clapiche, hein. J'ai découvert.
Ça trahit ton âge.
C'est ça, mais au contraire, c'est super intéressant que tu parles de ça, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est une peinture, un portrait d'une génération. C'est très générationnel. En tout cas, moi, j'ai découvert ça en regardant ces anciens films. Et bon, c'est toujours un plaisir. Hein. J'aime beaucoup, j'aime la façon dont les interactions sociales sont montrées, comment l'intrigue est implantée en partant de rien. Je veux dire, ça peut partir d'une personne qui voit sa vie bousculée à cause d'un incident. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui perd son chat. Et ça part sur autre chose. Et l'histoire principale, n'est plus celle que on attend dans le synopsis. Elle est là devant nous, dans les quartiers de Paris, dans les interactions, dans les rencontres. Et je trouve ça très, très beau. Et c'est quelque chose qui se reconnaît très vite dans son cinéma. Et il y a aussi cette sorte de positivité, il n'est pas là pour édulcorer quoi que ce soit. Il montre les choses. Il ne va pas faire un cinéma en termes d'image et de photographie. Il ne va pas faire un cinéma carte postale. En tout cas, ça ne se ressent pas. Encore dans ce film, ça ne se ressent pas. Et il a une façon très... comment expliquer ça de... Ces personnages sont naïfs, mais en même temps, ils sont tellement remplis de bonté et de bienveillance qu'on a envie simplement de rentrer dans le film et de partager cette aventure avec eux. En tout cas, c'est le cinéma de Clapiche, moi, ça m'inspire ça. Et donc, ce film, c'était une très bonne surprise. On est confortable. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Et de voir ce film au cinéma, il faut quand même le souligner, à la fin du film, on voit que c'est une restauration 4K qui a été, à partir du Master 4K, supervisée par Cédric Lapiche lui-même, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est un plaisir aujourd'hui qu'en France, qu'il y ait de tels financements pour revoir ce cinéma, ce patrimoine, dans de bonnes conditions en salle. Et surtout aujourd'hui, ouais, plus que jamais.
C'est vrai que la copie est très très belle. Effectivement. Et quand il a travaillé dessus, dans son souvenir, il avait l'impression d'avoir mis trop de couleurs, que c'était trop criard en fait. Et quand il a retravaillé dessus, il s'est dit mais non, c'est bien. Et puis ça correspond à la différence. On n'est pas habillés tous pareil, donc on peut avoir vraiment des couleurs, des teintes, des envies différentes de s'exposer, et voilà, les gens sont comme ça, sont différents, donc ça se voit à l'écran et c'est normal. Et mais il voulait quelque chose, ouais, ça se voit pas à la radio, mais oui, c'est ce côté, en tout cas c'est un film lumineux. Moi, ce que j'aime chez Clapiche, et c'est ce que j'expliquais un petit peu hier soir, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le...
Tu expliquais hier soir parce que du coup, oui, il y avait hier soir...
Alors, le principe d'Escale Patrimoine, c'est donc une programmation que l'on met en place avec la Maison de l'Image et Cinéma Le Navire. Et l'idée, c'est qu'il y ait au moins une séance, en tout cas celle du jeudi, puisque le film passe trois fois, celle du jeudi sur la première. Il y ait un petit échange, enfin en tout cas une présentation et un échange après avec le public. Voilà. Et après, les deux autres séances sont pas forcément accompagnées. Voilà. Oui, ça doit être le dimanche à 18h et le lundi à 20h30 ou 21h. Ou l'inverse. Mais
à vos programmes.
À vos programmes, en papier et sur Internet. Donc ce qui est bien dans le cinéma de Clapiche, c'est depuis le début... Hein, c'est ce courant réaliste, en fait, hein, de réalisme qu'il aime montrer. Il tout à fait dans la lignée du cinéma français, hein, où on n'est pas forcément, nous, vraiment dans l'imaginaire comme les anglo-saxons, mais plutôt du côté du réalisme, de la psychologie, de l'intime. Et ça, il aime. Et ce qu'il aime particulièrement, c'est de pouvoir partir d'une histoire banale, toute simple, Et comment il va nous la rendre intéressante, parce que dans tous ces films, on a toujours un peu le même format, hein, c'est-à-dire il y a un individu, lui arrive quelque chose, et puis il y a le collectif à un moment, le groupe qui va venir et qui va rendre un peu, qui va faire évoluer ce personnage et rendre une force comme ça de ce collectif qui moi que j'aime particulièrement d'ailleurs là du coup hier soir en rentrant chez moi j'ai pas vu l'Auberge espagnole parce que je l'ai vu beaucoup mais j'ai regardé Les Poupées Russes et je vais regarder Castel Chinois et je pense que j'ai envie aussi de regarder la série qui sort là sur Salade grecque. Mais c'est quelqu'un qui est hyper fort pour ça et qui arrive à, voilà, comme les comédies anglaises, mettre de l'émotion, du drame, enfin des choses bien et des choses moins bien, comme ce qui se passe dans notre vie, en fait, hein, régulièrement. Et là, ce qui est intéressant dans ce film aussi, c'est le quartier. Parce que là, c'est tourné dans le 11e, à une époque où il est en pleine transition, pleine transformation. Il est en train de passer du vieux Paris... au quartier bobo branché et c'est aussi à travers le film c'est cette galerie de personnages qu'on va retrouver entre Chloé qui perd son chat et les gens du quartier qui représentent différentes facettes de ce quartier et c'est une balade joyeuse dans un Paris des années 90. Bon voilà, il faut vraiment aller le voir.
Donc, à vos programmes, deux séances encore, une mardi, l'autre dimanche ou lundi.
Ouais, dimanche au navire, et lundi, il y en a deux, c'est sûr.
Au navire d'Aubenas. Oui. Ça me donnait envie de rebondir, mais tu voulais dire un mot supplémentaire.
Oui, je suis un fan de Clapiche absolu. Profiter, je crois que moi, je vais y aller, évidemment, de la qualité de la copie et puis simplement du grand écran. Ah, parce que revoir du Clapiche sur grand écran, il faut quand même savoir que c'est... Il filme bien, quoi. Ce qui nous lit, par exemple, c'est sur un an, il a pu montrer plus facilement son talent de cinéaste, quoi. Mais c'est déjà un talent qui existe dans ces trucs plus intimistes, même un air de famille ou des choses comme ça. Donc, vraiment, il faut y aller, quoi. Enfin, c'est vraiment...
Chacun cherche son chat au navire d'Aubenas, où il est question de collectif et d'habitants, ce qui me permet juste d'introduire ce documentaire dont on a parlé hier, Point de bascule, d'Antoine Zaroudi, qui est un documentaire où Antoine Zaroudi en fait, cherche à montrer la démocratie en train de se faire, notamment à Saillant, commune de la Drôme, comment les habitants se réapproprient cette capacité d'agir. C'est un long cheminement. D'ailleurs, il était donc présent hier dans le studio de Fréquence 7 dans l'onde curieuse. Et il insistait après d'ailleurs sur cette thématique de la longue durée. La démocratie, c'est pas « je vous propose une réforme en 100 jours ». On a 100 jours pour faire. C'est l'antithèse même de la démocratie. Et c'est un documentaire assez passionnant dans le sens où vraiment on est à l'intérieur et on voit, il n'édulcore aucune des difficultés. On se pose des questions et les questions sont difficiles. Tout le monde n'est pas d'accord et c'est ça qui est vraiment essentiel. Et je dirais même, pour avoir discuté un petit peu avec lui, que ça m'a marqué, Antoine Zaroudi est presque la métaphore même de la démocratie, c'est-à-dire qu'il s'est laissé, parce que c'est un film qu'il a constitué, qu'il a réalisé à partir de séquences filmées depuis 7 ans, hein, depuis 2015. Donc c'est vraiment là aussi le temps long. Et lui-même s'est laissé transformer par ses expériences, par les dialogues, par les manières différentes de voir. C'était un militant, le filmeur de Super Châtaigne à l'époque, donc plutôt militant frontal. Et puis petit à petit, sa vision a complètement changé. Il s'est laissé transformer et c'est la démocratie. Vraiment, allez voir ce documentaire à l'USAS ce soir à 20h30, je pense, et il y aura d'autres projections. Voilà, et je termine par... Alors je te laisse même pas la parole, je suis désolée,
tu voulais...
Olivier, je termine juste...
C'est passionnant, tout ça. Ce que je peux dire, c'est pour l'avoir vu, c'est que c'est passionnant.
Deux autres choses. Lundi, au cinéma Vivance d'Evance, le documentaire « Suspendu des soignants entre deux mondes ». Ça témoigne de la réalité des soignants suspendus lors de la crise du Covid. Et puis encore du cinéma militant, jeudi 27 avril, au navire, Permaculture, la voie de l'autonomie. C'est proposé par le collectif Citoyen pour le climat en association avec la Frapna 07. Bon, à découvrir, à débattre si on est d'accord, pas d'accord. Est-ce que, voilà. Dès 18h dans le hall du cinéma, il y a un forum des alternatives avec les acteurs du territoire autour de leur stand. Donc c'est au navire le vendredi 27. On a déjà débordé. Quentin, désolé. En tout cas, il y a du cinéma à voir pour se divertir, pour réfléchir, pour penser ensemble. Et c'est ça qui est bon. On est dans une salle de cinéma et on partage des choses. Merci à vous toutes, à vous tous. Merci Quentin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un cinémascope. On verra bien ce qui arrive d'ici là.
Alors maintenant on met la caméra au milieu. Voilà.